Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, que de leurs plus beaux souvenirs ensemble. L'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes, vous soyez inspirés bien sûr, mais aussi que vous puissiez au travers de ces expériences partagées, apprendre de nos invités toutes les astuces qui font pour eux le secret du bonheur à deux. Et si le podcast vous plaît d'ailleurs, pensez à vous abonner sur iTunes pour ne rater aucun épisode et surtout, surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Cela nous aidera énormément à partager tout cet amour autour de nous. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur nos invités ou sur notre univers, vous pourrez retrouver toutes ces informations en allant simplement sur le site de notre maison, gemyo, www.ge2myo.com. Mais passons maintenant à nos invités du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fred et Laetitia. Fred et Laetitia sont des clients Gemyo. Ils ont commandé la bague de fiançailles de Laetitia et m'ont d'ailleurs partagé avec beaucoup d'humour l'anecdote qui a donné lieu à la gravure qui orne le bijou. Fred a 42 ans et il est musicien. Laetitia a 30 ans et de son côté, travaille comme chef de projet dans le web. Et au-delà de leurs différences d'âge, l'histoire de Fred et Laetitia est remarquable à de nombreux égards. Avant de tomber amoureux, Fred et Laetitia ont été amis durant plusieurs années, passant le plus clair de leur soirée à pester ensemble sur leurs histoires d'amour ratées ou l'impossibilité d'avoir une relation juste simple et naturelle. Mais un beau jour, ils se rendent compte que ce qu'ils cherchaient était juste devant leurs yeux, la complicité d'un meilleur ami avec qui tout partager et de qui on tombe forcément amoureux pour la vie. Comme ils le disent si bien, tout ça est improbable, mais trop bien. Avec Fred et Laetitia, on a parlé de leur rencontre d'abord, assez improbable donc, puis de leur relation d'amitié avant qu'elle ne se transforme en aventure amoureuse. Ils m'ont ensuite raconté la fameuse soirée à partir de laquelle ils ne se sont plus jamais quittés. On a également discuté de la demande en mariage de Fred et pourquoi il a finalement demandé à Laetitia de l'épouser alors qu'il ne croyait plus du tout à cette institution. Comme quoi, une fois de plus, l'amour fait des miracles. Fred et Laetitia nous ont livré leur vision de l'amour, un amour forteresse mais empreint d'une grande liberté. Je suis Pauline Léniaud et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gemyo. Salut Fred, salut Laetitia, bienvenue sur le podcast, on est ravis de vous accueillir. Et avant de commencer à parler un peu de votre relation et d'amour, j'aimerais commencer déjà par vous demander de vous présenter. Laetitia, est-ce que tu peux commencer ?
Oui, mais d'abord, merci de nous recevoir. Donc moi, je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans, je travaille en tant que chef de projet dans le web et ça fait bientôt 4 ans que je suis avec Fred.
Super, et toi Fred ?
Alors, je suis Fred, j'ai 42 ans, je suis musicien et ça va faire bientôt 4 ans que je suis avec Laetitia.
Génial, parfait. Et alors, j'aime bien commencer en général par demander à mes invités comment ils se sont rencontrés. Et d'après ce que je comprends, pour vous, c'était il y a un petit moment, c'était il y a plus de 4 ans du coup. Est-ce que vous pouvez me raconter ça, Laetitia ?
Donc, c'était il y a 7 ans, je crois. Moi, je travaillais en extra dans un bar-concert qui produisait des artistes de chansons françaises. Et je faisais la vente de billets, en fait, en sortie de stage. Et un soir, donc la propriétaire du bar m'appelle pour me demander de faire les entrées d'un groupe qui s'appelle les Blaireaux de Ravel, donc que je ne connaissais pas du tout. Et elle m'avait dit, c'est deux soirs, tu verras, c'est très sympa. En même temps, tu pourras voir le concert, c'est très chouette. Donc j'arrive ce soir-là habillée normalement, sortie de boulot. Et puis je me présente au groupe qui était attablé à ce moment-là. Et puis je vois le chanteur qui vient me voir et qui me dit « Super, toi tu viens travailler et tu mets pas de chaussures. »
Tu mets pas de chaussures ?
Oui, j'ai une aversion totale pour les ballerines.
D'accord.
Depuis des années, c'est complètement inexpliqué, mais c'est... Ça me rend dingue.
Je me regarde mes pieds, heureusement, je n'ai pas vraiment de ballerine aujourd'hui.
C'est le premier truc que j'ai regardé. et en fait, c'est un détail, c'est même un peu ridicule, mais s'il n'y avait pas eu ce détail-là, je pense qu'on ne se serait pas parlé, en fait.
Non, moi, j'aurais fait mon boulot.
Puis j'aurais fait le mien.
Les deux soirs de suite, ce serait passé, et puis chacun serait reparti chez lui.
Et donc, en fait, vous vous rencontrez à l'occasion de ce concert, vous commencez à sympathiser. Et Qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez une relation d'amitié ? Vous commencez à sortir ensemble rapidement ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, on ne commence pas à sortir ensemble rapidement puisqu'on était chacun engagé.
D'accord.
Chacun de notre côté avec quelqu'un. Et on avait gardé contact, et en fait, c'est au final au moment où on s'est séparés chacun notre tour. On s'est retrouvés célibataires et on traînait un peu tard le soir sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ouais. Et on se donnait des nouvelles, en fait, pour savoir comment ça allait.
Oui, parce que pendant tout ce laps de temps, en fait, du coup, après le concert, Fred m'a ajouté sur Facebook en me vannant encore sur mes ballerines.
Et Bonne technique de drague, la balle.
Ça n'était pas une.
C'est ça, le pire, en plus, c'est que c'était vraiment...
Ouais. Sincère.
Ouais, vraiment.
Il fallait qu'il déverse sa haine. Mmh. Et comme moi, je faisais beaucoup d'insomnie, que je traversais une période de chômage après mon stage, tout ça, et que Fred travaillait beaucoup la nuit aussi, donc on se retrouvait sur Facebook à se raconter nos galères le soir, à dire « Ah ben moi, c'est n'importe quoi en ce moment parce que j'ai tel ou tel problème. Mmh. » En fait, on a passé pas mal de nuits à discuter, mais vraiment sans... Ouais, sans arrière-pensée, sans drague du tout derrière. C'était vraiment, enfin, j'étais son journal, je pense, et lui était le mien.
Génial. Et ça a duré combien de temps, finalement, cette période?
Ça a duré 2 ans, ah ouais. Globalement, si je ne me trompe pas.
3, je pense.
Et puis, un soir, on a vraiment touché le fond, je crois, l'un et l'autre, dans nos vies respectives. Et on s'est dit, bon, bah, on va se voir, on va boire un coup. Et puis, comme ça, on se verra. Ce sera l'occasion de se voir pour boire un coup. Et on a commencé, je ne sais pas comment expliquer ça, on est allé dans un petit bar chilien qui est dans Paris.
Qui fait de super mojitos quand même.
On a pris des mojitos et on a commencé à avoir une discussion très claire sur le fait de ne plus jamais se remettre avec quelqu'un parce que c'était trop pénible et que ce n'était pas notre truc.
D'accord.
Donc la soirée a commencé comme ça, il y a des gens qui étaient assis à côté de nous, on était en terrasse. Et puis, on a eu ce discours pendant à peu près 3 heures et on est parti du bar main dans la main, je pense.
Ouais.
C'était improbable.
Enfin, en fait, pendant tout le début de la soirée, c'était non, mais moi, me remettre avec quelqu'un, c'est jamais, j'ai déjà vécu ça, je ne veux plus le revivre. Moi, je venais de me séparer, donc moi, je venais de prendre mon appart toute seule. Je me disais, bah, moi, j'ai ma vie, je ne rends compte à personne et je ne veux surtout pas en rendre à quelqu'un maintenant. Et puis, je ne sais plus, au bout de quelques verres quand même... Fred qui me regarde et qui me dit « Non, mais c'est bon, me fais pas ces yeux-là, je t'embrasserai pas. » Et moi, je lui répondais « Mais j'ai pas envie que tu m'embrasses, laisse-moi tranquille. »
Je pense que ça a été un petit peu désarçonnant pour les gens qui étaient à côté de nous. Ils n'ont rien compris du tout.
Et donc, au bout de ces 3 heures de discussion, parce que quand même 3 heures, vous repartez main dans la main, dit Fred. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous tenez la main en vous disant « En fait, on a changé d'avis. »
Ouais, ou... parce qu'au dernier moment, du coup, on s'est embrassés.
Ah.
Donc ça s'est fini comme ça. Et puis ouais, après on allait dîner et puis on ne s'est pas quitté de toute la soirée.
Ouais, c'était un peu étonnant. C'était pas du tout planifié comme ça.
À la base, c'était une soirée censée célébrer notre célibat, retrouver et notre joie de vivre en solitaire. Et ça se finit à deux personnes toutes mielleuses qui s'accrochent et qui se lâchent plus.
Bon, on aime beaucoup ça, nous, les mièvreries chez Chalala, vous inquiétez pas. Une question pour vous. Comme vous étiez amis quand même depuis un moment, moi, la question qui me taraude, c'est est-ce qu'à un moment, l'un de vous a eu peur et s'est posé la question et s'est dit, mais en fait, si on franchit ce cap, on prend un risque qui est que on va peut-être mettre en péril notre amitié si jamais ça ne se passe pas bien. Est-ce que vous y avez réfléchi ou est-ce que finalement, juste l'amour, entre guillemets, était plus fort et vous n'avez pas tellement pensé?
En fait, on a eu une période quand même où, comme moi, je voulais être célibataire, Fred aussi, on s'est beaucoup préservé, surtout en se disant, on n'est pas ensemble, on fait chacun notre vie. Et Fred aimait bien dire qu'on se tenait compagnie. Moi, j'aimais pas du tout cette expression, mais, mais c'était sa façon de dire que on se voit, tant qu'on a envie de se voir, on est content. Et puis si jamais on voit que ça marche pas dans l'intimité, on arrête tout sans... Au moins, comme ça, il n'y a pas de rancœur. Et puis, on aura essayé, puis on aura vu que ça ne marchait pas. Et puis, c'est au bout de quoi, 3-4 mois, où il m'a demandé officiellement si je voulais devenir son amoureuse.
Très sympathique. Et alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, Fred? À quel moment tu te dis, non, mais en fait, cette relation un peu ouverte, j'en veux plus. Moi, je veux que Laetitia soit mon amoureuse. Est-ce que tu te rappelles, il y a eu un moment comme ça où tu t'es dit, non, mais en fait, ça suffit.
Non, mais en fait, elle n'a jamais été ouverte, cette relation.
Oui, mais bon.
Dans le discours, ça l'était, justement, par protection. Mais c'était absolument pas le cas, en fait. Dès qu'on embrasse quelqu'un, je suis très fleur bleue aussi. Donc, dès qu'on s'est embrassé, qu'on a commencé à voir qu'on s'entendait bien dans un autre... dans une autre situation que celle de l'amitié. Moi, j'avais envie que ça continue, mais on était un peu blessés l'un et l'autre, et je pense qu'on n'avait pas planifié que ça durerait peut-être sur toute cette période-là, tout en ayant envie. Donc, c'était assez étonnant. Ouais.
Et tu t'en rappelles, toi, Laetitia, du moment justement où Fred t'a un peu à sauter ce cap, en fait, et a pris ce risque aussi, on peut le dire quand même, de dire non, mais en fait, je veux que les choses soient claires maintenant, et moi, je veux vraiment en fait qu'on soit en couple. Est-ce que tu t'en rappelles, et est-ce que toi tu t'y attendais, est-ce que ça t'a fait peur, ou est-ce que t'étais contente peut-être au contraire?
Non, en fait j'étais hyper contente, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques petits signes avant-coureurs, où quand ses copains venaient chez lui, au début il me disait non, là je vais être avec mes copains donc on se voit pas ce week-end, je lui disais c'est pas grave, et puis plus le temps passait, puis il disait peut-être que ce serait bien que tu passes la soirée avec nous, et puis les jours passaient, puis c'était j'aimerais bien que tu restes dormir, comme ça tu passes la soirée complètement avec nous. Donc là, je voyais bien qu'il y avait un truc qui avait un peu plus changé, en dehors du fait de se voir juste tous les deux. Donc là, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, mais tout en me disant, t'emballe pas, parce que ça se trouve, tu fais des films et ça peut s'arrêter à tout moment. Et je me rappelle très, très bien du moment où ça s'est passé. On était au resto en terrasse et il connaissait très bien la patronne du resto, donc qui vient lui faire une bise et il lui dit, je te présente mon amoureuse. Laetitia, et du coup, dans ma tête, je me suis dit, peut-être que. Et au final, c'est juste après, on m'a dit, oui, je suis désolée, je t'ai présentée comme étant mon amoureuse, mais est-ce que tu veux vraiment bien l'être? Là, forcément, t'as des cœurs dans les yeux, tu dis, oui, évidemment, j'attends que ça, enfin.
Et pour parler encore un peu de cap, on aime bien ça chez Gémio, le cap d'après, c'est le mariage, évidemment, et je sais que vous êtes mariés depuis assez peu de temps, depuis 6 mois, je crois, c'est ça? Félicitations. Merci. J'ai cru comprendre que du coup, vous aviez attendu, mais pas tellement. Enfin, vous avez attendu quoi, quelques années, 1 an, 2 ans?
T'as fait ta demande 1 an et demi après qu'on soit...
Oui.
Un an et demi, super. Ouais. Alors, est-ce que là aussi, vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Finalement, c'est assez rapide, 1 an et demi, 2 ans après une rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Fred, et pourquoi tu t'es dit, ok, c'est bon, maintenant c'est fini, c'est la bonne, je la garde pour toute la vie?
C'est surtout que ça part de loin, parce qu'au départ, moi, je voulais pas me marier du tout. Dans mon planning personnel, il n'était pas question que je me marie. Et en fait, la différence, elle est que dans notre relation, en tout cas dans la manière qu'on a eu de se rencontrer, il n'y a pas eu cette période, comme le disait Laetitia, de drague et de passion irraisonnée, où au final on fantasme plus l'autre, et une fois que la passion est retombée, on se rend compte, on se rend un peu plus compte de la personne avec qui on vit, en fait. Sauf que nous, on se connaissait déjà dans d'autres circonstances, on avait déjà un peu vidé notre journal, comme tu le disais, et en fait on se connaissait déjà. Après, il fallait juste voir si dans le quotidien ça fonctionnait, en fait. Mais il n'y a pas eu de moment de surprise, dans le sens mauvaise surprise, de découvrir au bout de quelques mois, de se dire « mais en fait, tu penses ça, tu réagis comme ça, c'est quand même bizarre ». Donc, on a commencé à se voir de plus en plus, et puis après, on s'est installés ensemble. Et du coup, on discute beaucoup. On aime bien prendre l'apéro le week-end.
On a nos petits rituels du vendredi,
le rituel de l'apéro, qui fait tenir
sortir.
Des couples, en fait.
Au final, c'est ce qu'on se disait. En semaine, on est pris par le boulot, par le temps. On n'a pas forcément, on se dit les choses, et puis, mais les choses les plus rapides, les choses de la vie. Et à partir du week-end, quand on se prend un apéro, on discute vraiment, on se met chacun dans un fauteuil à la maison, et puis on parle vraiment. Donc, un soir, on a parlé mariage, et Laetitia savait très bien que moi, j'en étais pas. Elle m'a expliqué sa façon de voir les choses, et ses arguments m'ont touché, en fait. J'ai compris pourquoi c'était important pour elle. Et quand on est amoureux, quand il y a quelque chose qui est important pour l'autre, on le fait. Donc, on le fait. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai fait un petit temps de réflexion.
Quand même le temps de la réflexion.
Mais effectivement, ouais, c'est des arguments qui m'ont touché. C'est des choses que j'avais pas imaginé, en fait. J'arrivais pas à le...
Et alors, si on rentre justement dans le détail des arguments, si c'est pas indiscret, bien sûr, mais pourquoi est-ce que toi, Laetitia, ça comptait pour toi le mariage? Et à l'inverse, qu'est-ce qui, pour toi, était un peu un problème, Fred?
Je crois qu'au-delà du mariage, moi, dans ma vie, j'ai jamais vraiment vécu en couple. Et c'est un passage qui est assez compliqué. J'ai 42 ans, donc j'ai eu des histoires qui ont été un peu particulières, un peu difficiles parfois. Mais la vie en couple, je l'ai, j'ai jamais expérimenté ça vraiment. Donc j'en avais une peur bleue. Et le mariage, c'était le,
ouais, le summum,
c'était
de,
le summum de la vie en couple. Et c'était. Et puis on a aussi bah, des échos. J'ai des copains qui se sont mariés à l'âge où les gens entre guillemets normaux se marient, quoi, vers entre 20 et 30 ans, et puis qui sont divorcés aujourd'hui avec des enfants. Alors je passais pour le Peter Pan de la bande parce que j'avais soit pas de nana, soit j'étais pas marié. Ils avaient acheté une maison, ils avaient des enfants, ils étaient mariés. Puis au final, 10 ans plus tard, on voit que tout ça, ça s'écroule chez les copains et on se dit ouais. Finalement, j'ai peut-être pas eu tort de pas me lancer. Donc je pense que c'est aussi c'est empreinte crainte en permanence en fait aussi. Donc, voilà.
Et toi, Laetitia, du coup, qu'est-ce qui te donnait vraiment envie de te marier à l'inverse ?
Moi, c'était. Enfin, j'ai beaucoup entendu que le mariage, c'était surtout une question d'argent, que c'était surtout des formalités administratives et tout. Alors que depuis que je suis toute petite, moi, je fantasme ça comme la création de sa propre famille. Et c'est, pour moi, c'était hyper important de faire un tout avec la personne avec laquelle je vis, de porter son nom, de vraiment avoir. T'as ton livret de famille, t'es madame un tel, et tu fais partie de la vie de cette personne-là comme étant reconnue comme un membre à part entière. Chose que. Enfin, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont des enfants aussi, mais qui sont pas mariées et qui donnent leur nom de jeune fille quand elles vont chercher les enfants qui ont le nom du père et qui me disent ça me fait bizarre quand même de pas porter le même nom que tout le monde. Et je trouve que c'est assez. Pour moi, c'est très rassurant d'avoir cette petite bulle familiale dans laquelle tu te raccroches. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
C'est votre petite forteresse, quoi.
Voilà.
Et alors, justement, si on parle de comment cette forteresse a été créée, est-ce que tu peux me raconter, Fred, ou Laetitia d'ailleurs, comment s'est fait cette demande ? Est-ce qu'elle a été un peu préméditée ? Parce qu'en plus, quand on n'a pas très envie de se marier, j'imagine que la demande en mariage, ce n'est pas évident à gérer.
C'était inattendu. Mais alors, si je m'attendais un jour à ce qu'il me demande en mariage, parce que comme il m'avait clairement fait comprendre que pour lui, c'était Noé, moi, je m'étais dit, tant
pis. Du coup, il y a eu un effet surprise de dingue.
Ouais. Non, mais vraiment.
Les circonstances étaient pas mal aussi.
Ouais, parce que du coup, moi, j'ai quitté mon ancien job et donc pendant ma période de démission, j'ai eu un mois de préavis qui a sauté. Donc pendant un mois, j'étais en vacances. Donc je lui dis, vu que lui, il n'avait pas de date en concert et que moi, j'étais libre, je lui dis, ça te dit qu'on retourne à Tokyo vu qu'on y était allé un peu avant et qu'on voulait à tout prix retourner. Donc je regarde les billets de train, je réserve les billets de train et il se trouve que la période où c'était pas très
les billets de train.
Je me disais
oula, c'était très long.
T'étais très amoureuse.
Voilà, c'est ils étaient en retard, c'était chiant. Non, donc je regarde pour prendre des billets d'avion et la période où les billets d'avion étaient les moins chers, c'était la période qui nous est arrivée à Tokyo le 14 février. Donc je lui dis, c'est cool, en petit chamallow que je suis, je lui dis, on va passer à Saint-Valentin là-bas, c'est trop bien, c'est chouette, machin. Donc Fred me dit, oui, c'est sympa, on se fera un resto. Et ce qui fait que, on arrive, on a préparé le voyage et on arrive à Tokyo. Et là, je découvre un Fred, mais hyper, hyper, hyper impatient.
Ouais, parce que j'avais la bague de fiançailles dans la poche depuis 3 mois. Et j'avais, du coup, dès qu'on a décidé de repartir à Tokyo, je me suis dit, on arrive le 14. Quitte à le faire une fois dans sa vie, autant le faire bien.
Oui, j'avoue que là, t'as 2-3 signaux qui s'alignent, c'est pas mal, quoi.
Et en fait, c'était un peu compliqué parce qu'on a eu pas mal d'heures d'avion. On est arrivé dans l'hôtel, qui se trouvait être le même hôtel où on était descendu 8 mois plus tôt. On s'est retrouvé dans la même chambre. Donc on a eu l'impression de rentrer chez nous à Tokyo, c'était assez incroyable. Et moi j'attendais qu'une chose, c'est, je savais exactement où je voulais le faire dans une des rues d'Asakusa, qui est le quartier où on dormait, qui est un quartier tradi, qui est assez chouette. Et du coup en arrivant, j'ai dit au resto, en ayant la bague dans la poche, et Laetitia me dit, attends, on a fait plus de 20 heures de voyage, je vais prendre une douche.
Je suis fatiguée.
Une douche, et puis je l'entends sortir de la douche, je dis, on y va. Elle me dit, attends, je me sèche les cheveux. Et c'était je pense, les 15-20 minutes de ma vie les plus longues. En fait. De me dire, mais c'est pas possible. C'était même pas une question de doute, c'était une question qu'il fallait. Ça faisait plus de 3 mois que j'avais acheté la bague et il fallait que ça sorte.
Et moi, je le sentais, mais trépigné. Je me disais,
qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, je me disais, il doit vraiment avoir faim quand même. je vais me dépêcher. Alors, je me séchais les cheveux à toute vitesse en disant, vite, 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 il faut qu'on aille manger. Il crève de faim. Et je le voyais tourner en rond dans la chambre d'hôtel qui disait, c'est bon, là, t'as fini de te sécher les cheveux. Je me disais, oui, mais je vais me maquiller, regarde les cernes que j'ai. Puis je le vois qui faisait. Faut qu'on y aille.
Non, c'était drôle. En plus, Tokyo, c'était vraiment C'est une ville particulière parce que c'était un voyage. Enfin, je rêvais de ce voyage depuis plus de 20 ans. Et quand on s'est mis ensemble avec Letty, je lui ai dit, écoute, l'an prochain, on venait de se mettre ensemble, ça faisait 3-4 mois. Je lui ai dit, cette année, je pars à Tokyo. À chaque fois, je dis, bon, bah, j'irai l'an prochain. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, tu viens avec moi. Et donc, on est partis ensemble, mais c'est quand même pour le coup, c'était un énorme pari parce qu'on se connaissait très peu en tant que couple. Mmh. On se connaissait en tant que potes. Mais il y a plein de potes avec qui j'aimerais pas voyager. Le voyage, ouais, c'est quand même particulier.
Dans une ville comme Tokyo, où on est quand même complètement lost in translation, comme ouais. le film le dit, c'est bien quand même.
C'est ça, si tu découvres que t'as pas du tout la même façon de vivre que l'autre, ouais. Je pense que ton voyage, il est foutu. Et tu peux même pas rentrer rapidement, en fait.
Ça s'est bien passé ou il y a eu des petits clashs, justement, à ce moment-là?
Ça a été magique, parce qu'on voyage exactement pareil. Ouais. Donc, on a la même manière de vivre un voyage. Et du coup, en revenant de Tokyo la première fois, je me suis dit, c'est quand même vraiment très chouette, quoi. Ça se passe bien, mais là, c'était le voyage de ma vie. Du coup, c'est devenu notre voyage à nous. Mmh.
A été compliqué, ça a été le retour, justement, parce que tu viens de Tokyo, qui est une ville hyper tranquille, hyper propre. Les gens sont hyper bienveillants avec toi. C'est assez magique, t'es complètement dépaysé. Et puis tu reviens à Paris, on a eu la grève des trains et des métros à ce moment-là. La ville était sale, on a mis je sais pas combien de temps à rentrer. Et puis moi, je retrouve un travail que j'aimais pas du tout, dans lequel je me sentais complètement oppressée. Du coup, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse en rentrant de Tokyo, justement. Fred a plutôt bien géré quand même, mais ça a pas été facile pour toi quand même, le retour de Tokyo.
Non, le retour, non. C'était effectivement dur. Mais ça, c'était le premier voyage. C'était avant la demande en mariage. La demande en mariage, quand on est revenu, ça allait.
Oui. Comme quoi, justement, la demande en mariage, Edith, tu t'y attendais pas du tout. Tu es complètement. T'as du décalage horaire en plus. Je pense que tu devais être complètement à côté de tes pompes, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dis oui tout de suite? Est-ce que tu dis, mais qu'est-ce qui te prend? Tu voulais pas te marier il y a 6 mois? Comment t'as réagi?
En fait, je l'ai vu mettre un genou à terre et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais?
Un genou à terre, pas mal, ouais. Total.
Ah oui, j'ai fait la totale, tant qu'à faire.
Avec les Japonais qui passaient, qui s'arrêtaient pour nous regarder et qui nous regardaient avec des grands yeux.
Parce que ça se fait pas dans la rue.
Oui, je pense qu'au Japon.
Déjà s'embrasser, se tenir par la main.
Ils devaient se dire, mais ils sont vraiment excentriques, ces Européens. Et en fait, je l'ai limite engueulé en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais relève-toi, mais ça va pas.
Il t'a dit oui.
Et puis après, forcément, j'ai dit 3 fois oui, je pense.
Oui.
Super. Et alors maintenant, donc vous êtes mariés depuis à peu près 6 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes mariés? Est-ce que vous sentez que votre relation, elle a un petit peu évolué? Est-ce que ça a eu un impact quand même pour vous, notamment toi, Fred, finalement, qui n'était pas très attaché, on va dire, au rituel du mariage? Mais est-ce que finalement, tu t'es rendu compte que... Ouais, il y a eu une petite étincelle peut-être un peu différente ou pas du tout?
Je me pose pas la question, en fait. Je pense que le plus difficile, c'est le mot, en fait, c'est de pouvoir dire... c'est de dire, je vais voir ça avec ma femme. C'est extrêmement étonnant. Mais sinon, dans notre quotidien, je crois pas que ça ait changé énormément de choses. Parce que les projets qu'on a... qu'on a maintenant, on les aurait eus sans le mariage. Mais c'est des détails, c'est le nom sur la sonnette. Il n'y a plus qu'un nom sur la sonnette. Et puis oui, c'est ce que disait Laetitia, c'est ce qui était important pour elle aussi dans cette histoire de mariage, c'est d'avoir vraiment créé une entité, quoi. Mmh. On a créé une entité qui est notre famille.
Maintenant on est un ensemble au lieu d'être un couple.
Ouais, bien sûr.
Un couple basique, quoi. Ce qui est différent aussi, c'est quand t'es une fille et que tu prends le nom de ton mari, c'est ton nom qui change. Ça, c'est...
Ouais, ça a été dur pour toi, quand même.
Ouais, ça m'a pas mal perturbée de me dire, maintenant j'ai changé de nom, c'est madame. Et il y a encore des moments où je signe avec mon nom de jeune fille parce que je fais pas attention. Mais sinon, mon mari, c'est... Pour l'instant, j'ai pas trop l'habitude encore. J'ai encore mon mec, mais...
C'est la même chose, c'est la même chose. Et au niveau un peu de l'organisation entre vous, j'imagine que le mariage n'a pas changé grand-chose, mais maintenant que vous habitez ensemble depuis un moment, est-ce que vous avez un peu une organisation, je suis un peu en mode conseil là pour nos auditeurs, une organisation des tâches un peu au quotidien, je ne sais pas, administratif, ménage, on parlait vaisselle juste avant de commencer.
Moi j'ai l'homme rêvé je crois pour la maison, vu que moi je bosse en CDI 35 heures au minimum par semaine. Et que Fred est intermittent, donc il reste pas mal à la maison et travaille de la maison beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite fée du logis qui s'occupe de faire les courses en heure creuse, qui fait la vaisselle le matin pour que ce soit rangé le soir, et puis qui en plus est un peu maniaque, donc qui fait aussi le ménage.
Pratique.
Et la lessive.
Ouais. Par contre, je fais plus la cuisine.
Non. C'est moi qui fais toujours à manger le soir parce que ça me détend de rentrer de Paris et d'arriver chez moi, de prendre des ingrédients, de les couper, de mijoter un truc. Ça me détend, c'est vraiment le moment où je me déconnecte en rentrant du boulot. Donc c'est moi qui fais à manger. Mais par exemple, quand j'ai une envie de quelque chose et que je sais qu'on n'a pas les ingrédients, bah j'envoie la liste à Fred et il va les chercher dans l'après-midi.
C'est plutôt pas mal.
Ouais, ça c'est cool.
Est-ce qu'il y a eu dans votre histoire finalement, vous les vieux... Vous l'évoquiez un petit peu en filigrane, mais un moment quand même, parce qu'on a l'impression que c'est un peu une histoire de rêve, Fred et la fée du logis, en plus d'être parfait, d'avoir accepté de se marier, ça donne envie. Mais est-ce qu'il y a eu quand même un moment qui a été un peu plus compliqué que les autres, une période dont vous vous rappelez qui a été un peu difficile et dont vous vous êtes sorti, parce que je trouve qu'on apprend souvent en fait beaucoup justement des moments difficiles et ça pourra peut-être aussi aider des auditeurs si vous nous la racontez.
En fait, c'est surtout des moments durs qu'on a vécu personnellement qui ont fait qu'on s'est beaucoup renforcé, mais on n'a pas eu de clash ou de sujets qui fâchent. On n'a pas ce genre de truc là, mais en fait, moi je sais que quand il y a quelque chose qui me chagrine ou que je suis pas très bien, je fais des crises d'angoisse et je me renferme comme une huître et je parle pas. En fait, j'attends que ça passe et vraiment il faut pas me parler. Moi je dirai rien. Si on me demande si ça va, je vais dire bah oui ça va et puis laisse-moi tranquille. Et justement, lui, Fred, il est très, très dialogue. Et la chose qu'il a réussi à faire, c'est justement pas me brusquer en me criant dessus ou en me bousculant ou en me forçant à parler, mais vraiment à m'expliquer son point de vue, à me dire comment lui ressentait les choses et que ça lui faisait vraiment beaucoup de mal que je me renferme comme ça, en le mettant vraiment en dehors de notre bulle. Et c'est vrai que quand t'aimes une personne et que tu vois qu'en fait, ton comportement qui, en plus... n'est pas du tout causé par son attitude, lui fait du mal, bah, tu te remets vachement en question et puis 10 minutes après, tu reviens à la queue entre les jambes en disant bon, bah, je suis désolée et on va parler. Et tu vas lui dire ce qui te chagrine et puis lui, il va le comprendre. Et en fait, à deux, tu te rends compte que quand l'autre, il t'écoute et qu'il est là pour toi, ça sert à rien de se renfermer. Et c'est pas mal de fois où moi, je me suis beaucoup renfermée sur moi et où lui est venu me voir en disant écoute, c'est pas possible parce que moi, je suis pas là pour vivre ça. Il faut que tu me parles et c'est vrai que ça fait débloquer, c'est ça qui fait débloquer pas mal la chose.
Oui.
Il est bon en dialogue. Parfait. Non mais je pense que c'est hyper important, enfin, dans tous les épisodes qu'on a pu enregistrer de Chez la Love, je pense que c'est la chose principalement qui a été dite. Au niveau du dialogue, il y a des dialogues qui sont sympas, mais il y a aussi des dialogues qui sont un peu moins sympas, c'est les disputes. Ouais. Une question que j'aime bien poser, c'est quoi votre sujet de dispute numéro 1? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y a un truc qui revient un peu de façon récurrente ? Vous savez que vous allez vous engueuler.
En fait, on n'est pas très bon. Enfin, on n'est pas des très bons clients pour cette question parce que, en fait, je pense qu'on n'est jamais arrivé jusqu'au stade de l'engueulade.
Ah ouais.
On a eu des désaccords qu'on a réglés au moment de l'apéro.
Ouais,
globalement, parce qu'on discute, c'est vraiment le moment où on parle. Quoi.
Rien que le fait que quand moi je vivais à Paris, lui en banlieue, ça a été un petit désaccord aussi sur le fait de savoir où vivre. Moi je me sentais pas prête de quitter Paris, lui c'était hors de question pour lui de quitter là où il vivait. Mais au final, on trouve un compromis. Je sais que si je quitte Paris, j'ai un appart plus grand, j'ai moins de loyer. Et puis c'est des compromis aussi de sa part où il me dit que c'est pas en déménageant de Paris, je sortirai moins, qui sera prêt à venir me chercher si jamais j'ai plus de moyens de transport le soir. Mais ça, en discutant, ça a pu être un petit sujet de discorde au
Discord,
tout début.
Pas de dispute.
Non,
enfin, on ne sait jamais. On a toujours réussi à éviter cet écueil-là en discutant.
Mais la bouteille de vin est un très bon médiateur. Hein,
écoute, je note ça comme petit conseil, parce que j'allais vous demander justement le petit conseil. Du coup,
avec modération quand même, mais... Mais ça aide à poser les choses sur la table en se disant, bah, tiens, écoute, là, on va se faire un petit truc un peu convivial et on va dire chacun nos arguments en s'écoutant et surtout pas être fermé à ce que l'autre vit, à ce que l'autre veut faire entendre. Parce que si on part avec une idée préconçue, c'est sûr que ça va foirer, quoi qu'il en soit. La personne, elle peut avoir tous les bons arguments de la terre, si nous, on n'est pas du tout d'accord à l'écouter. On sera complètement imperméable à ce qu'il va dire, et si on n'a pas du tout envie de mettre du sien, ce qu'on disait la dernière fois, c'est très très facile de s'embrouiller pour rien en fait. Dès le matin, on peut vite se prendre la tête pour pas grand chose, et si on a décidé qu'on allait s'embrouiller, c'est vite foutu quoi. Donc,
mais je pense que les discussions qu'on a eues aussi au tout début de notre relation, en tant que Camille qui avait une vie d'amoureux finalement au tout début. En fait, la chose qui était très claire, c'était de dire, de toute façon, si les choses ne fonctionnent pas, on n'est pas obligé de continuer. Il n'y a rien qui nous oblige à continuer. Donc, ce n'est pas la peine de s'engueuler. On va poser les choses, et puis bah, ça, pour moi, c'est inconcevable, ça, ce n'est pas possible. Après, il y a ça qui est un peu qui était plus dans une période grise, de dire, bah, ça, je pourrais dire oui, mais je ne sais pas dans quelles conditions, il faudrait y réfléchir. Mais ça, c'était vraiment au début, et en fait, on a pris le pas. C'est pas une technique, c'est juste... Encore une fois, on dit ça en rigolant, le coup de l'apéro, mais on prend vraiment un temps. Il n'y a pas une semaine où on ne se retrouve pas l'un en face de l'autre à discuter vraiment, sans que ça devienne chiant ou philosophique.
Combien de temps ça dure à peu près ?
Ça peut commencer... En général, on commence à 19h et ça peut durer jusqu'à 4h du matin.
Ah oui, pour des longues discussions.
Pour les bonnes soirées, ça va...
À deux, quoi.
Ouais.
Bon, là, un peu moins, parce qu'on est fatigué, c'est l'hiver, il fait froid, donc on se couche plus tôt, mais...
Génial.
Non, mais ce que j'aimais bien, c'était quand on s'est mis ensemble, Fred avait une phrase qui était assez chouette pour résumer sa vision de la vie de couple. C'était que lui, il considérait sa vie comme un gâteau. Donc, qu'en soit le gâteau, donc c'était sa vie d'homme célibataire. Et en soi, le gâteau était très, très bon. Et il ne voyait pas pourquoi il allait modifier ce gâteau-là et que En fait, la vie en couple, c'était un peu la cerise sur le gâteau qui rend le gâteau encore meilleur. Mais si elle n'est pas là, ce n'est pas grave, sa vie, elle sera déjà bien. Et justement, en fait, la vie en couple, elle n'est pas là pour mettre une touche amère à ton gâteau. Elle est juste là pour le sublimer. Et si tu sens qu'il y a quelque chose d'amer qui arrive dans ton couple, en fait, c'est que ça ne va pas.
C'est que la recette n'est pas la bonne.
Il faut partir, quoi.
Puis ça évite de se mettre une pression aussi. Parce que si on crée toute sa vie sur un amour... sur l'amour de l'autre ou l'amour pour l'autre, effectivement, c'est fragile. Donc, on a plutôt intérêt à construire sa vie, à se dire, bah, j'ai mes potes, j'ai des amis, j'ai un boulot qui me plaît, j'ai des passions, j'ai des choses. Mmh. Et puis, bah, effectivement, détends-toi, il n'y a pas inutile d'avoir trop de pression. On va vivre ce qu'on a à vivre et on va essayer de le faire au mieux. Mais...
Mmh. Et justement, là, tu parlais à l'instant de tes potes, de votre vie à côté. Quand vous vous êtes mis ensemble, vous étiez quand même amis depuis 2-3 ans, comme vous disiez. Quelles ont été les réactions finalement de votre entourage et de vos amis en particulier qui vous connaissaient, qui vous savaient que vous étiez copains, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils n'allaient pas se mettre ensemble et en fait finalement c'est le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ?
Il y en a eu quelques-unes dans l'entourage, un peu dans l'entourage musical de l'endroit où on s'est rencontrés. Mais globalement, les gens étaient assez contents parce que, moi, de ce qu'on m'avait dit, c'était que ça se voyait que ça allait le faire compte tenu de nos caractères respectifs. Moi, je sais juste que ma meilleure amie qui avait vu Fred quelques temps avant et qui l'avait rencontré quand on s'est mis ensemble, elle m'a dit « mais je t'ai jamais vu comme ça ». Les autres personnes avec qui j'ai pu être, elles voyaient très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et là, elle m'a dit, en fait, je le valide complètement. Et elle a tellement validé que c'était notre témoin au mariage. Mais ouais, globalement, ils ont été assez bienveillants et il n'y a pas eu de crainte non plus par rapport à la relation d'amitié qu'on pouvait avoir avant.
Super. Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est si vous reveniez un petit peu en arrière, autour de 10, 15, 20 ans en arrière, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez donner un petit conseil au jeune Fred et à la jeune Laetitia de l'époque sur ce qui est pour vous le secret du bonheur à deux ?
Et Ben, c'est pas évident.
Non.
En fait, je suis pas sûr d'être un grand fan du destin, ou en tout cas du hasard, ou les deux, ou l'inverse. Je ne sais pas trop, tiens. Je vais être un peu confus, mais je pense que j'aurais aucun... Je pourrais rien dire au jeune Fred, en fait. Je pense aussi que, enfin, si on arrive à s'entendre de cette manière-là, si on a cette complicité-là, elle est liée à l'expérience qu'on a eue. Donc, en fait, je lui dirais, enfin, fais la même chose, foire aux mêmes endroits, prends-toi des torgnoles aux mêmes endroits. Et en fait, par contre, enfin, je pense que la seule chose, c'est de pas oublier. Parce que vivre une expérience qui ne fonctionne pas et l'oublier, c'est pas en tirer des leçons. Après, en disant ça, j'ai l'impression qu'on est un peu des cobayes et on a tiré tellement de leçons d'expérience que ça fonctionne. Mais c'est absolument pas le cas.
On a eu 1000 vies, quoi.
Ouais, mais. Non, je saurais pas quoi dire. Au final, je pense que c'est l'instinct qui doit gérer ça. Nous, on s'est retrouvés un peu. Elle était improbable, notre histoire. Au début, on n'arrêtait pas de répéter que c'était trop bien, mais que c'était n'importe quoi. C'était, c'est vrai, c'était assez étonnant.
C'est ce qui est gravé dans ma bague de fiançailles, d'ailleurs. C'est n'importe vrai, quoi, alors, mais trop bien.
N'importe quoi, mais trop bien. Mmh. Une gravure assez sympa.
Oui, j'aurais pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'aurais pas de conseils. Je dirais, t'inquiète pas, ça s'arrange après.
Ça va bien se passer.
Ce serait plus ça.
Et moi, ce serait plus lui dire d'arrêter de s'acharner, en fait. Parce que j'étais un peu la spécialiste de ok, il est pas du tout comme je veux, mais il va changer, c'est sûr, il va changer. Et en fait, à force de s'acharner et de rester et de se dire bon, bah là, ok, alors ça me plaît pas, mais peut-être qu'en faisant un effort, ça va passer. Je me rends compte que pas du tout. Et il y a tellement d'années qui ont pu passer où tu te fais du mal, tu t'acharnes en te disant mais en fait, le caractère me correspond pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je mets des œillères et. Et j'y vais quand même, quand je vois avec Fred la simplicité à laquelle tout se fait, il n'y a rien qui coince, il est toujours hyper conciliant, on s'entend super bien parce qu'on a la même façon de vivre, on a les mêmes caractères, on a le même besoin d'indépendance aussi, qui est hyper important, on se laisse tranquille beaucoup. Donc moi je lui dirais, arrête de t'acharner en fait, à partir du moment où tu verras que c'est le bon, tu le sauras tout de suite.
Génial, c'est un merveilleux mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps.
Merci
beaucoup.
Et puis je vous dis à bientôt. Cet épisode de Chalalove accueillait Fred et Laetitia. Vous pourrez retrouver cet épisode et le lien vers d'autres épisodes du podcast sur le site de notre maison www.gemio.com, G-E-2-M-Y-C-O.com, rubrique podcast. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram ou Twitter d'ailleurs si l'histoire de Fred et Laetitia vous a touché. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, nous proposer peut-être aussi votre histoire d'amour, suivez-nous sur Instagram au pseudonyme Gemio, G-E-2-M-Y-C-O, et racontez-nous à votre tour votre histoire avec le hashtag Chalalove. Enfin, si vous voulez donner un peu d'amour à votre tour et que le podcast vous a plu, eh bien alors n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Mille merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.